Bonjour à tous. Eh bien, j'ai le privilège de vous annoncer la bonne nouvelle aujourd'hui. C'est une bonne nouvelle, la parole de Dieu est une bonne nouvelle. Et le titre de ma prédication, comme vous le voyez, c'est « Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés ». Nous allons ouvrir notre Bible. Qui est-ce qui n'a pas sa Bible? Alors, vous aurez une heure de colle. C'est le professeur qui parle. Je vous conseille, c'est juste un conseil, venez toujours avec vos Bibles. Quand vous venez à l'église, je parle de la Bible. Je parle de la Bible comme ça, que vous pouvez tenir comme ça. Livre. Pourquoi c'est si important? Moi, je vais vous demander d'aller avec moi dans le livre de Psaume, Psaume 53. Là, lorsque vous ouvrez le livre de Somme, lorsque vous ouvrez un chapitre, quelque chose que vous voulez lire dans la Bible, un verset sur lequel on vous amène, vous avez un petit crayon, un petit stylo, un petit stabilo, vous soulignez à quoi ça va vous servir. C'est que parfois, quand on arrive chez soi, quand on est comme ça en repos, on a envie de revoir qu'est-ce qui a été dit la dernière fois. Et dès qu'on ouvre, on voit ce qu'on a souligné. Ah oui, et puis on peut lire le contexte pour voir un peu l'ensemble de ce qui vous a été dit. Et vous prenez le temps peut-être de, je dirais plutôt de ruminer un peu, c'est-à-dire de méditer. Et au fur et à mesure que vous faites ça, je crois que vous parcourez toute la Bible, mais vous avez des références que vous gardez. Votre tête, à force de regarder les parties soulignées, vous ramène à des références que parfois Dieu va utiliser pour vous bénir dans certaines circonstances, justement. Voilà pourquoi il est important d'avoir la Bible papier. Le psaume 53 dit, au verset 3 et 4, « Dieu du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Ça, c'est une condition dans laquelle l'homme était juste après la chute. On est resté comme ça, on arrive. Plus, il n'y a plus de gens, Dieu lui-même dit qu'il a examiné, il n'y a pas un seul qui fasse le bien. Vous imaginez, est-ce qu'il y a des gens qui font du bien aujourd'hui? Je crois qu'il y en a beaucoup. Oui. En Romains, on va aller dans le livre de Romains. Romains 5, juste le verset 17, il dit, si par vos offenses, si par vos offenses, ou par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Alors, là, c'est la condition dans laquelle nous sommes après le passage, après la venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et c'est dit que nous régnerons avec lui et lui seul. Nous régnerons. Comment règne-t-on? On règne avec l'autorité et la puissance. L'autorité et la puissance sont venues de deux mots grecs. L'un, exousia, qui est l'autorité, et l'autre, dynamis, qui est la puissance. Le dynamis, c'est potentiel. Je vais vous expliquer pourquoi, à quoi ça sert de bien comprendre cette différence. Donc, la deuxième façon dont l'autorité exousia que je viens de vous donner, l'exercice de l'autorité, Dieu nous a donné l'autorité qui est liée au nom de Jésus pour régner sur tout le reste de la création. Ce pouvoir délégué nous permet de nous opposer à la puissance des ténèbres, de chasser les démons, d'influencer les circonstances, les maladies, les difficultés de la vie. Je vais vous donner un exemple sur moi-même. Dans la cinquantaine, j'avais une maladie. Il paraît que c'est lié à l'oreille interne, les chaînes des osselets là-bas et tout ça. Et on a le vertige, on a du... J'étais couché à 3 heures du matin, je me suis mis à vriller, à faire du looping carrément, comme si j'étais dans un avion, j'étais devenu un grand pilote. Et c'était le vomissement, la nausée, toutes les choses. J'ai fait rapidement aux urgences et tout ça. Bon, et on m'a donné un traitement pour 10 jours. Et quand je suis retourné à mon boulot, à mon travail, les collègues me disaient, ah oui, c'est quelque chose, c'est dangereux, on sera obligé de t'opérer avant que ça... Et j'ai dit, non, moi je n'accepte pas ça. Je ne veux pas être opéré, j'ai pensé ça à moi. Et au bout des 10 jours de traitement, au 11e, je n'ai rien eu pendant les 10 jours, mais au 11e jour, dans la même condition que c'était arrivé, à 3 heures du mat, je me réveille comme ça, et puis ça y est, c'est reparti le looping. Je dis, oh non, Seigneur. J'ai prié, j'ai tout fait, Seigneur, maintenant, c'est maintenant. Il faut que ça finisse. Et puis, je me suis levé, je me suis assis sur le lit et je me suis mis à parler en langue, à prier en esprit. Et là, j'ai entendu, chasse-le. Et spontanément, Satan sort de ma tête. On ne m'a pas dit de chasser Satan, mais la parole de Réma, une parole est venue dans mon cœur quand il a dit... Auditivement, j'ai entendu, chasse-le. Dans mon cœur, ce qui est sorti de ma bouche, c'est ça que j'ai tenu. J'ai eu une sorte de quelque chose qui est dégagé de ma tête comme ça. Et pof, j'ai touché ma femme qui dormait à côté. Sylvain, je lui ai dit, Sylvain, je suis guéri. Parce que j'ai senti vraiment la chose. Et depuis ce moment jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais ce genre de vertige. Je dis, voilà pourquoi il faut communier avec le Seigneur. On va y revenir tout à l'heure. Allons en Romains 8. Au verset 37, en Romains 8. Moi, j'aime bien feuilleter le papier là. J'ai aussi la Bible sur mon téléphone, mais ça me sert à faire des recherches. C'est très bien. C'est excellent, la Bible sur le téléphone, pour faire des recherches et tout. Mais pour parler de la parole, pour partager la parole, il faut le papier. Et donc au verset 37 de Romains 8, il est dit, c'est le titre, ce que j'ai mis là, « Mais dans toutes ces choses, avant ça a parlé de qui nous séparera de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, personne ne peut nous séparer. » Et il a dit « Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Il s'agit de Christ qui nous a aimés. En effet, la victoire ne vient pas de nous. La victoire vient de Christ. Au jardin d'Éden, il s'est passé quelque chose. La femme Ève a fait une rencontre avec le serpent. Bon, nous savons que c'est Satan. Le serpent est venu et il savait que Ève n'avait pas la connaissance, ce qu'on appelle la vraie connaissance sur laquelle tenir ferme. Aujourd'hui, nous pouvons tenir ferme, comme il est dit dans Éphésiens, n'est-ce pas? Tenir ferme. Ève n'avait pas une connaissance ferme. Je vais vous expliquer pourquoi. Elle s'est donc laissée séduire par Satan, qui l'a amenée à douter de ce que la parole que Dieu leur avait donnée. Elle n'avait pas la connaissance et elle a mangé le fruit défendu. Elle a donc désobéi. Mais où était Adam? Posez-vous la question. En tout cas, nous, ce que nous savons, c'est que Adam n'a rien dit. Il n'a pas participé au marchandage. Mais il a fait pire. Il a juste, quand sa femme lui a dit, tiens, c'est très bon, il a tendu la main, il a pris, il a mangé aussi. Mais je vais vous montrer, allons en Genèse, c'est à Adam seul que Dieu a donné le commandement au départ. Quand Dieu donnait le commandement à Adam, Ève n'était pas là. Donc, Ève a reçu une transmission. Ce n'est pas donné de bouche à bouche, comme on dit. Genèse 2, versets 16 à 22. Je ne vais pas tout lire. Au verset 16, on dit, « L'Éternel donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. » Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà là. C'est clair, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors, est-ce qu'ils ont mangé? Oui. Est-ce qu'ils sont morts? Ils sont morts spirituellement, ils ne savaient pas. Ils ont dit, ils sont morts. Et le commandement donné en Genèse 2, juste après la chute, au chapitre 3, juste derrière, c'est dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et elle ajoute, vous n'y toucherez point. » Est-ce que Dieu a dit ça ? Non, dans ce qu'on a lu tout à l'heure. Dieu a dit, si vous mangez, vous mourrez, point. Et elle a dit, vous n'y toucherez point, et en plus, de peur que vous ne mouriez, de peur. Elle a introduit la notion de peur. D'où est-ce qu'elle détient ça? Voilà. Donc, dans la séduction de Satan, il peut vous amener toutes sortes de choses. Et Satan, bien sûr, réfute ça. Et les yeux de l'un et de l'autre s'étaient ouverts au verset 7. Par contre, j'ai omis de lire les versets 21, excusez-moi, du chapitre 2, juste devant. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous disais tout à l'heure que Adam avait été le seul à recevoir le commandement. Donc, il a dû transmettre après à sa femme. Alors, l'Éternel fit tomber, au verset 21, fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme, etc., etc. Donc, c'est là que l'Éternel a créé la femme. Vous voyez? Après avoir donné le commandement, comme nous l'avons lu au verset 17 tout à l'heure. Je vais vous parler d'un jeune homme. Le combat spirituel, c'est une guerre de connaissances. Vous avez la connaissance, mais de quelle connaissance il s'agit ? Il a commencé dans le jardin d'Éden. La vraie connaissance que Dieu a donnée à Adam et Ève, ils l'ont rejetée et ils ont accepté la connaissance que Satan leur a apportée. Vous ne mourrez point. Voilà. Et ils ont changé. La guerre spirituelle, c'est une guerre de connaissances, comme je vous dis. Et la connaissance, j'en connais un qui a tenu à faire connaître. Il s'appelle Luther. Martin Luther. Ce jeune homme était, à l'époque, au 15e siècle, hein, il était un jeune prêtre allemand. Et comme à l'église catholique, on nous apprend à faire beaucoup d'œuvres. C'est très bien, mais les œuvres seules ne suffisent pas, comme on nous l'a dit après. Donc, il s'est mis à faire. Voilà, il nettoie tout, il s'occupe de tout, il fait tout, ce qui est très bien. Mais il ne sentait rien. Enfin, il lui semblait que... Je ne sais pas à quoi je sers. Et un prêtre aîné lui a dit, écoute, lis ta Bible. Tu as la Bible, là, lis-la. La Bible, en français, dans le temps, personne, tout le monde, on ne devait pas la lire. Hein. C'était interdit. Et il a fouillé la Bible. Vous savez sur quoi il est tombé? Le juste vivra par la foi. De quoi le juste vivra par la foi? Alors, il a continué à lire, il a lu. Mais il a découvert beaucoup d'autres choses. Mais... Donc, ce n'est pas les œuvres qui font vivre le juste, c'est la foi. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a traduit toute la Bible en allemand populaire. Et, concours de circonstances, nous on dira concours de circonstances, mais Dieu avait mis quelqu'un à l'époque qui s'appelait Gutenberg, qui a inventé l'imprimerie. Il est allé le voir et il lui a dit, est-ce qu'on peut imprimer tout ça? Gutenberg était convaincu aussi et il a imprimé en masse ce livre qu'ils ont distribué partout en Allemagne. Ça a fait de l'Allemagne des gens éclairés au XVe siècle. Alors, c'est Dieu lui-même qui établit toutes les lois du ciel. Ce sont des lois qui s'imposent à toute la création. Dieu lui-même donne les révélations à l'humanité pour l'éclairer. La loi de la gravité, par exemple, elle est immuable. Écoute, je laisse ce livre-là et il va tomber patatras au sol. Hein. S'il a une masse, si c'est une plume d'oiseau, peut-être que ça peut voler. Mais quelque objet que ce soit que vous lâchez, qui a une masse, il va tomber au sol. Il est attiré par la gravité, forcément. Ce sont des lois du ciel. L'électricité existait au temps d'Abraham, au temps de Moïse, au temps de David, mais il ne l'avait pas. Il a fallu qu'il y ait une révélation à quelqu'un qui a trouvé l'électricité et ça a éclairé le monde. Et la science en a été développée davantage. Chaque individu a une intelligence, nous avons tous une intelligence. Par contre, ce que nous n'avons pas, c'est la connaissance. C'est la connaissance, c'est-à-dire la connaissance des lois que Dieu lui-même a créé. Et c'est lui seul qui les administre. Allons lire ça en Job, le livre de Job au chapitre 38. Le livre de Job au chapitre 38. Alors, je vous ai puni un peu aujourd'hui. Je n'ai pas fait écrire les versets. J'ai refusé de les mettre sur l'écran. Je donne juste les références pour vous obliger à ouvrir. C'est pas gentil, hein? Pardonnez-moi. Alors, dans le livre de Job, verset 38, chapitre 38, pardon, au verset 33, il est écrit, « Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? » Voilà la question que Dieu a posée à Job, parce que Job se plaignait, et lui, il est juste, mais... Est-ce qu'il est juste sur tous les plans? Est-ce qu'il connaît les lois du ciel? Est-ce qu'il connaît les lois du royaume, on dirait aujourd'hui, du royaume des cieux? Le royaume de Dieu est là maintenant avec toutes les lois, en fait, à notre disposition. Et quand Dieu parlait à Job du royaume, des lois du ciel, c'est tout simplement parce que Job ne connaissait pas le royaume des cieux. Et Dieu dit que c'est l'Éternel qui établit toutes les lois du ciel. Et c'est Dieu lui exprime en quelque sorte que c'est son ignorance qui fait qu'il a toutes ces souffrances qu'il vivait. De celles-ci, s'il connaissait, s'il savait se confier à Dieu d'une certaine manière, il n'aurait pas subi toutes ces choses. Mais nous savons que Dieu même l'a permis, bien sûr, pour ceux qui ont lu le livre de Job, après on verra. Vous verrez ça dans vos lectures. Lorsque tu es né de nouveau, le Saint-Esprit vient en toi. Vous connaissez Jean 14. Dieu dit, c'est Jésus qui parle à ses disciples, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit est une puissance. Nous avons la puissance en nous, mais c'est une puissance dynamis. C'est de la dynamique. Elle est là. Mais si je ne fais rien, si je n'exerce pas l'autorité que Dieu m'a donnée d'utiliser cette puissance, eh bien, je ne pourrai rien faire. C'est ce qui nous arrive à plusieurs d'entre nous. Allons dans le livre de Proverbes. L'ignorance entraîne beaucoup de conséquences. Proverbes 29. Proverbes 29, au verset 18, il est dit, « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, heureux s'il observe la loi. » Heureux s'il observe la loi. Sinon, il est sans frein. Quand il n'y a plus de révélation, il n'y a rien. Vous vous souvenez, cela s'est passé à une époque. Cela s'est passé après le livre de Zacharie. Non, Malachie. Malachie était le dernier livre de l'Ancien Testament. Après ça, Dieu s'est tu à cause de trop de d'idolâtrie, tout ce que le peuple, les offenses de Dieu que Dieu a subies par rapport au peuple qui est complètement effréné dans ces conditions. Eh bien, Dieu a arrêté de parler au peuple. Il n'y avait plus de révélation. Et pendant 400 ans plus, ce sont les philosophes, ce sont les hommes du monde. C'est parti dans tous les sens. Comme Satan a arrivé, comme Satan a arrivé, tant T-E-N-D, hein, pour vaincre. Voici la première part, la première chose à faire pour vaincre. Il faut chercher la face de Dieu. Lisons Osée 4, 6 d'abord. Osée 4, au verset 6, dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » C'est jusque-là. Dieu a dit, si on néglige sa parole, l'ignorance, en fait, c'est le rejet de Dieu. C'est ce que Adam et Ève ont fait à Dieu. Dieu avait eu son cœur vraiment offensé dans le jardin d'Éden. Mais nous avons obtenu... Il y a quelque chose qui s'est passé à la croix qui nous a permis d'obtenir aujourd'hui l'Esprit de Dieu en nous, une puissance, la puissance du Saint-Esprit qui est en nous. Si nous venons au culte dimanche et puis juste après, il n'y a plus rien, est-ce que nous pouvons accéder à la connaissance? Lorsque nous venons, nous sommes là tous et puis allez, nous partons, ça c'est rendez-vous dimanche prochain. Nous sommes juste des camarades, comme on dit. On peut dire encore que nous sommes des frères parce que nous le savons par l'esprit. Mais nous ne sommes pas des amis. Les amis, ils se retrouvent tout le temps, ils se retrouvent souvent. Et ils se retrouvent pour prendre du temps ensemble. Et ils communiquent les secrets les uns aux autres. Voilà ce que c'est que l'amitié. Donc, si nous voulons connaître Dieu, ce n'est pas juste en venant ici s'asseoir un dimanche, chaque dimanche. Je crois que cela ne suffira pas. Je vais vous donner un exemple. Dans la Bible, il y a une dame qui s'appelait la Samaritaine, parce qu'elle est de Samarie. Vous savez quoi? Elle connaît une bonne partie de la Torah. Hein. Elle a parlé du puits de Jacob sur lequel on vient puiser. Elle a parlé de l'adoration. Elle dit, vous les Juifs, vous dites qu'il faut, il faut adorer à Jérusalem, alors que nous, on dit qu'il faut adorer sur les montagnes. Et elle a même dit, elle savait que le Messie allait arriver. Mais le Messie était devant elle. elle ne savait pas. Et quand Jésus s'est révélé, bref, la lumière est venue en elle. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a couru au village. Elle a laissé ses affaires pour dire, il y a quelqu'un ici qui a dit tout ce que j'ai fait, qui savait tout de moi, ne serait-ce pas le Messie? Voilà comment, lorsque la révélation arrive, lorsque vous êtes éclairé, eh bien, lorsque vous êtes éclairé subitement, vous voyez, vous comprenez tout et vos yeux s'ouvrent. C'est ce qui se passe, ce qui s'est passé. Et Jésus lui-même a parlé à la Samaritaine, dans Jean 4, au verset 22, il a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Voilà, il a dit en termes clairs que pour avoir, c'est pas juste connaître, savoir qu'il y a Jacob, il y a Moïse, il y a le Messie, mais sans savoir qui il est. Il faut s'approcher de Dieu, il faut le connaître. Jean 5, au verset 39, présente une autre situation. Et cette fois, c'est avec des sacrificateurs, des docteurs, des gens qui connaissent la parole de Dieu. C'est avec des gens qui connaissent tout et qui, malgré les écritures qui sont à leur disposition, ils ont continué. Ils disent qu'ils sondent, les écritures, qu'ils cherchent à comprendre. Et Jésus leur dit, en Jean 5, au verset 39, du verset 39 à 40, il est dit, « Vous sondez les écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Eux, ils cherchent la vie éternelle en sondant les Écritures, mais ils n'ont pas retrouvé le Messie là-dedans, en fait. Ils ont la Bible, mais ils ne la travaillent pas en profondeur. C'est juste là la question. Mais Jésus leur a dit, au passage, je passe rapidement là-dessus, en Genèse 3, 15, c'était déjà de moi qu'il s'agit quand on dit « Sa postérité va écraser la tête du serpent ». En Exode, c'est l'agneau pascal. En Lévitique, c'est le serpent des reins, etc., etc. Il s'est révélé, il a montré que c'est écrit dedans. Pourtant, ils sont des docteurs, ils ne le savent pas. Les Écritures ont pour but de nous conduire à Christ, à connaître Dieu. Et elles nous donnent la vie. La vie. Ignorer les Écritures ne peut que nous conduire à l'échec. Mon deuxième point pour vaincre, c'est connaître la victoire acquise à la croix. J'ai un souci, mon truc ne peut plus avancer. Ah, ok. Connaître la victoire acquise et la nouvelle identité en Christ. Étant descendant d'Adam, en fait, l'humanité tout entière est perdue. Nous avons à travers Adam rejeté la connaissance. Donc nous avions rejeté Dieu. Mais Dieu lui-même, dans son amour, nous a envoyé Jésus de Nazareth. Il est mort à la croix pour nous. Il est ressuscité par la puissance du Saint-Esprit, puis il est monté au ciel. Sommes-nous réellement conscients ? Lorsque nous sommes nés de nouveau, de ce qui nous est arrivé à travers cette œuvre de Christ complètement accomplie à la croix pour nous, comment sommes-nous devenus plus que vainqueurs, comme nous l'avons lu en Romains 8, 37? Comment saisir et vivre cette victoire? Il y a beaucoup de textes dans le Nouveau Testament qui nous en parlent. On va lire juste deux ou trois. Colossiens 2. Nous disait Colossiens, dans le livre de Colossiens, nous sommes en plein dans le Nouveau Testament, après que Jésus ait accompli son œuvre. Colossiens 2, verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont l'ordonnance, dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il les a effacés et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Voilà ce qui s'est passé à la croix. La victoire, notre victoire, la victoire que Christ a acquise. Il a soumis toutes les dominations. Personne, plus personne ne peut vous dominer. Les esprits, tout ce qu'il y a, ne peut vous nous dominer. C'est ce que ça veut dire. En Éphésiens, un autre livre, en Éphésiens, verset 2, c'est dit dès le chapitre, verset 1, Éphésiens, pardon, chapitre 2, dès le verset 1, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Verset 6, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ aujourd'hui. Voilà notre position élevée sur toutes les dominations, les autorités qui ont été renversées, qui ont été cloué à la croix. 1 Pierre 2, au verset 9. 1 Pierre 2, verset 9 dit, excusez-moi, j'ai mis 2 Pierre, c'est 1 Pierre 2 au verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Voilà notre identité. Nous sommes un sacerdoce royal, un peuple saint. Nous sommes appelés, un peuple élu. Eh bien, je vous ai parlé au début des mots autorité et pouvoir. Dieu en Jésus-Christ nous a conféré l'autorité à l'Église. Il nous a conféré l'autorité à l'Église qui est le corps de Christ, dont lui-même est la tête. Comment Dieu a conféré l'autorité? Il a donné l'autorité à des hommes de Dieu qui dirigent des églises. Pour nous, c'est le pasteur titulaire, André Hubert. Mais en lui donnant, vous avez entendu peut-être ça, les clés d'ouvrir, de lier et délier, tout ça est donné à l'autorité locale de chaque église locale. Mais pour tous les chrétiens, Dieu nous a donné l'autorité de chasser les démons de tous ordres, de réclamer de Jésus de nous débarrasser des démons du second ciel, parce qu'il y a des démons qui, eux, sont élevés et qu'on ne combat pas n'importe comment. Ce sont les démons territoriaux, les dominations, comme on les appelle, non pas les dominations, les principautés, comme on les appelle. Ils sont sur les territoires. Ceux-là, bon, prudemment, il ne faut pas y aller. Mais Dieu nous a donné l'autorité de chasser tout ce qui nous embête. Les démons, ici, ils sont là pour nous harasser, pour nous embêter tout le temps. Il faut que nous puissions exercer cette autorité, dynamis, cette autorité, cet esprit qui est en nous, en proclamant le nom de Jésus. La troisième étape pour vaincre, c'est vivre la parole. Vivre la parole en faisant quoi? J'ai parlé d'abord tout à l'heure de comment nous devons être quotidiennement en contact avec cette parole, lire quotidiennement. Ça, c'est une étape, la Bible. La deuxième étape, ce sera la prière. La prière est une relation avec Dieu. Et l'ennemi n'aime pas ça. Vous savez, quand vous êtes prieur, vous aurez toujours des pressions. Et je pense que c'est le cas dans notre église. On prie tous les mercredis. Et on se retrouve un très petit nombre. Or, la prière, je vais vous dire, elle est puissante justement pour reculer la pression, les pressions, l'harassement que l'ennemi veut faire, que le diable veut faire sur nous. C'est la prière qui nous quotidienne, qui nous permet de les éloigner de nous, de nous éloigner de toutes ces maladies, toutes ces choses qui nous amènent. On dit, le royaume de Dieu est venu et ce sont les violents qui s'en emparent. Il faut pouvoir exercer cette violence. Si j'ai remarqué quelqu'un à qui je veux rendre hommage, elle est parmi nous ici, c'est notre sœur Gladys. Elle a cherché à connaître l'église et elle a vu qu'ici on faisait la prière le mercredi et le culte le dimanche. C'était à une période certainement en début de semaine où elle a raté le culte du dimanche, je ne sais pas, mais elle est venue, la première fois qu'elle est venue dans cette église, à la chapelle de prière. Et depuis, elle n'a jamais manqué une prière. Ah, c'est merveilleux ça. Et je lui rends hommage, ma sœur, c'est une très bonne chose. Exceller dans la prière, c'est dans cette pratique quotidienne qu'on se fortifie dans le Seigneur. Et qu'on se prépare petit à petit pour le combat qui n'avertit pas, bien sûr. L'ennemi vous attaque et vous attaque en pleine nuit, comme je vous ai raconté tout à l'heure. Il attaque n'importe comment. Alors, je vous donne une petite description de comment vous faites. Vous êtes attaqué par une maladie, par exemple. Qu'est-ce que vous faites? Ne vous affolez pas. Parlez au Seigneur. Examinez-vous. Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Oh oui, bon, il y a peut-être des péchés que je n'ai pas confessés. Bon, je me répands. La repentance doit être quelque chose de quotidien pour vous, pour nous. Et ensuite, je lui dis, maintenant, voilà, je sais que je suis avec toi. Cette maladie ne vient pas de toi et je veux la combattre avec toi. Vous lui demandez de sonder votre cœur. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est caché dans votre cœur dont vous ne vous souvenez pas, que vous n'avez pas confessé au passage. Ce qu'il faut faire, bien sûr, au fur et à mesure. Il vous révèle quelque chose, eh bien, demandez pardon tout de suite. Et après ça, prenez l'attitude de vainqueur. Comme il est dit en Apocalypse, sortez en vainqueur pour vaincre, parce que nous avons cette victoire déjà ancrée en nous. C'est juste prier tout simplement et demander. S'il y a un esprit, Dieu vous le révèle, vous chassez. S'il n'y a pas un esprit, eh bien vous demandez tout simplement à Dieu de guérir cette maladie et elle partira forcément. Si elle ne part pas tout de suite, vous savez ce que vous pouvez faire? C'est bien d'avoir un partenaire de prière, par exemple. Je vous le conseille. Il y a des situations, s'il y a des difficultés, vous vous retrouvez pour prier de temps en temps ensemble. La Bible dit que deux valent mieux qu'un. Alors, c'est très bien. dès que quelque chose arrive, vous pouvez appeler à votre partenaire. Ou bien encore, vous pouvez appeler un ancien de votre église, comme l'est dit dans le livre de Jacques, pour demander la prière. Et l'adoration est le troisième point. L'adoration, c'est carrément quelque chose de privé. Vous passez du temps avec le Seigneur, pas beaucoup de temps, c'est juste quelques minutes, 10 minutes. C'est vous qui voyez quand vous êtes disponible. Ne lâchez aucune journée sans avoir fait de l'adoration. L'adoration, c'est quoi? Ben, je me mets devant le Seigneur. Je lui dis, je lui parle de cœur à cœur. Je lui dis tout ce que je pense, je le loue, je le glorifie, j'élève son nom. Et voilà, je proclame sa bonté, sa magnificence, tout ce qu'il fait pour moi. Il faut le faire de temps en temps. Ça, c'est bien, ça aussi, ça prépare. Et si vous n'avez plus de mots, vous parlez, et puis vous n'avez plus de mots, eh bien, chantez un cantique. La parole dit que l'ange de l'Éternel campe au milieu, siège au milieu des louanges. Voilà, il faut communiquer avec le Seigneur. Et je vais aborder la dernière partie pour montrer un peu comment exercer notre autorité en Jésus-Christ, muni désormais de toutes ces connaissances de la parole que nous lisons régulièrement, que nous méditons, la prière, l'adoration. Et maintenant, la parole que nous connaissons, il faut l'utiliser maintenant. Nous avons l'Esprit de Christ en nous avons dit, et nous avons, c'est une puissance dynamique. Mais nous allons justement voir que l'autorité est indispensable. L'autorité que nous avons acquise, j'ai dit tout à l'heure que nous sommes un sacerdoce royal. En Matthieu 28, on va lire l'évangile de Matthieu 28 au verset 19. C'est le dernier verset du livre de Matthieu. Ça dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est, Dieu nous a donné d'aller faire ça. Mais je n'hésite pas, je fonce. C'est-à-dire, j'y vais, mais en sachant que j'ai quelque chose en moi avec lequel je vais pouvoir parler aux gens, avec lequel je vais faire des miracles, je vais faire des choses qui vont montrer aux gens que je suis vraiment venu de Dieu, que j'ai quelque chose de Dieu en moi. Lorsqu'il n'y a rien, les gens, il y a beaucoup de gens, ils vont dans les églises, ils sentent qu'il n'y a pas de miracle, il n'y a rien qui se produit, ben ils s'en vont, tout simplement, ils repartent. Et il y en a qui sont en quête de miracles, mais ce n'est pas pour ça. Que, voilà. Mais c'est dans les circonstances où vraiment quelqu'un qui est handicapé, complètement au sol, à ras de terre, dans sa maladie, profondément en train de souffrir, vous n'allez pas lui dire, écoute l'évangile, et vous allez commencer par juste lire comme ça des versets. Non. Vous allez commencer comme la mère de Pierre, tant si vous connaissez la parole, bon, je passe là-dessus. Quand vous arrivez, vous devez commencer par guérir s'il y a des gens qui sont malades. Et après, ils sont convaincus, vous leur parlez la parole, ça passe tout seul. Et dans le livre de Marc, Marc chapitre 16, à la fin aussi pour Marc, chapitre 16, il est dit, vous êtes en train de comprendre pourquoi il faut travailler la parole. Il faut avoir ces munitions qui complètent l'esprit de Christ que nous avons en nous. Il faut tout simplement, il faut proclamer ces versets, les utiliser, j'allais dire à la limite, sans réfléchir, que ce soit spontané. En Marc 16, versets 17 et 18, il est dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, au nom de Jésus bien sûr, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. ils saisiront les serpents. C'est-à-dire, le serpent, vous savez, c'est Satan. C'est-à-dire qu'ils peuvent jeter Satan de leur chemin, comme je l'ai fait. Et s'ils boivent un quelconque breuvage mortel, cela ne les fera aucun mal. Ils parleront de nouvelles langues. Moi, je parle beaucoup, beaucoup, beaucoup en langue. C'est la prière en esprit. C'est là que Dieu communique avec vous. Je vous le conseille. C'est quelque chose qui fait que dans les circonstances difficiles, vous n'êtes pas surpris. Ça vient tout seul. Soit vous recevez une révélation, parole de Dieu, et puis vous appliquez immédiatement, vous ne tardez pas. Soit vous n'avez rien reçu, mais vous continuez à prier, vous persévérez. Vous persévérez. En Luc 10, au verset 19, vous connaissez tous par cœur celui-là, je suppose. Luc 10, 19 dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et rien ne pourra vous nuire. C'est fort, hein? Nous avons, et c'est quand les 70 ont reçu cette autorité déléguée, ils sont partis, ils ont fait, ils sont revenus dire, ah, même les démons nous ont soumis. Même les démons nous sont soumis, mes amis. Les démons nous sont soumis avec cette autorité que nous avons et nous ne laissons rien passer. Mon souhait aujourd'hui, c'est qu'en entendant tout ça, c'est que ça vous donne la volonté, voilà, de faire ces choses, de travailler davantage la parole, de retenir, Seigneur, ces versets qui sont intéressants, enfin, qui sont puissants, que nous pouvons utiliser, mais avec l'autorité que nous avons. Si nous n'exerçons pas, ne savons pas que nous avons une autorité, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien faire. Alors, n'ayons pas peur. C'est une responsabilité. C'est la responsabilité, Seigneur, nous revient, est au diable. Qu'est-ce que je dis? C'est notre responsabilité d'appliquer ces choses. Sinon, nous laissons au diable la responsabilité de nous attaquer, la volonté de nous attaquer. C'est nous qui agissons, nous exerçons tout ce que nous avons en nous. Nous avons l'autorité, la puissance du Saint-Esprit afin de poursuivre les œuvres que Christ a faites sur la terre. Christ, quand il est venu sur la terre, la parole dit en 1 Jean 3, 8, le Fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres du diable. Et nous avons la même autorité aujourd'hui pour détruire les œuvres du diable. Nous devons nous y atteler, travailler à la connaissance de la parole. Et nous avons reçu, avant d'être chrétien, nous avons reçu quelque chose en nous, nous avons prié, Dieu nous a donné l'esprit. Mais nous avons prié par la foi. Ne dites pas, je n'ai pas la foi. Il y en a qui disent, non, je n'ai pas la foi. Nous avons la foi, comme dit Jésus, si nous avons la foi comme un petit grain de sénévé. Le grain de sénévé, c'est le plus petit des grains. Ouais. Mais il donne des grands arbres. Les sénévés sont des grands arbres. Même si nous avons cette petite foi, nous pouvons déplacer les montagnes, dit la parole. Ne dites jamais que nous n'avons pas la foi. Nous avons cette foi, la petite qui nous a permis de devenir chrétien, est toujours là. Alors, marchons dessus, dites. Voilà, Seigneur, ce que tu as dit, tu m'as donné cette autorité. Au nom de Jésus, toi, tu sors immédiatement et il s'en va. Nous avons aussi ce privilège d'influer les circonstances. Là où les atmosphères sont difficiles, nous pouvons régner dessus, transformer l'atmosphère, rien que en nous mettant à prier en esprit, à invoquer Dieu, à parler, même en nous, sans que personne ne sache. Je vais vous raconter pour terminer ce qui m'est arrivé quand je passais le CAPES pour devenir professeur. Bon, j'ai fait l'écrit, j'ai fait l'oral et à la pratique. J'ai été visité par un inspecteur, c'est lui qui valide. Après ça, c'est fini, tu deviens prof. Alors, il est venu et moi, j'avais préparé justement quelque chose que je devais présenter sur Dans le temps, c'est l'ordinateur qu'on branche sur les télés. Et donc, j'ai branché tout, je suis allé la veille, j'ai tout monté, tout était là. Et le lendemain, je viens, je prends mes élèves, je rentre, l'inspecteur est là, il s'installe. L'ordinateur ne marche plus. Plus rien ne bouge. Qu'est-ce que je fais? Bon, je l'ai demandé à rapidement descendre. J'ai appelé un des gens, on a un staff qui s'occupe de l'entretien des matériels. Et il s'est mis là-dessus. Et l'idée m'est venue. J'ai envoyé un élève au tableau. On a commencé par corriger des anciens exercices et tout ça. J'étais en train de faire ça. De temps en temps, je regardais l'autre. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est prêt? Et après, il m'a donné le signe. Dès qu'il m'a donné le signe, j'ai dit. Ça y est. Mais pendant ce temps, croyez-moi, je priais en langue comme un fou. J'avais beaucoup prié déjà, j'ai tout mis. Et donc, moi, j'étais. Quand on arrive là, on est un peu contrarié, on te dit Seigneur, j'ai quand même beaucoup prié et tout. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça bloque? Mais j'ai continué à prier. Je lui ai fait confiance et tout est débloqué. J'ai fait ma présentation. Finalement, j'avais perdu 45 minutes, figurez-vous. Et j'ai fait juste 15 minutes de cours. Mais cela a suffi. L'inspecteur m'a dit, bon, faites sortir les élèves. On s'est installé sur une table. Il a dit, vous savez comment ça marche. Quand je viens, bon, je vois comment vous faites. Et puis moi, je mets mon appréciation et une autre. Et il a commencé comme ça. Et puis petit à petit, il a dit, mais bon, si moi je mets, personne ne peut enlever. Personne. C'est quelqu'un qui est très, très méchant. Il paraît, tout le monde en parle. Mais moi, je n'avais pas peur parce que j'avais beaucoup prié. Et il commence tout doucement, il va aider. Oui, mais vous. Oh, d'ailleurs, j'ai besoin de vous, je vais vous donner votre nom à mon collègue. Je ne vais pas donner le nom d'un autre, une inspectrice, que je connais. Il dit qu'elle va donner son nom pour que voilà, vous fassiez partie de mon groupe de recherche pédagogique. Et du coup, ça veut dire que j'ai eu le résultat. Normalement, ça devait être mis dans une enveloppe. Enfin, qu'on nous envoie après, on donne le résultat beaucoup plus tard, après Marie-France, n'est-ce pas? Mais là, lui, il m'a déjà donné le résultat. Et il est parti après voir mon principal pour lui dire, mais monsieur Cosme, moi, j'ai pas perdu ma journée aujourd'hui. Vraiment, il a vraiment présenté. Ah, non, c'est trop. Voilà, ça, c'est un prof. Voilà, c'est pas pour me glorifier, mais c'est parce que l'atmosphère entourée de prières a permis ça. Moi, je le croyais, je le crois. Et voilà ce que je voudrais que nous fassions, que nous nous intéressions, que nous venions prier ici régulièrement. Et que, justement, il y a quelque chose. Priez avant de venir, peut-être Dieu va vous révéler quelqu'un qui a un besoin. Si c'est un démon à chasser, vous arrivez spontanément. Si vous avez entendu, vous avez reçu dans votre cœur, faites-le. Ne jamais différer ce qu'on a reçu. C'est Dieu qui parle quand vous êtes en prière. Et quand vous venez ici, si quelqu'un vous dit « Ah, je suis un peu malade », n'hésitez pas, sur le coup, spontanément, priez. J'ai fait ça à des gens ici, ils ont dit « Mais tu m'as prié la dernière fois, tout est parti. » C'est merveilleux, on est content et ça fortifie dans la foi. C'est le but que je poursuivais aujourd'hui. Soyez bénis. On va prier le Seigneur. Éternel Dieu, moi je te rends grâce, Père, pour ce message que j'ai donné et merci de ce que tu as touché les gens, que tu as préparé des cœurs pour davantage s'impliquer avec toi dans la parole, dans la connaissance, pour pouvoir utiliser toutes les connaissances qu'ils ont acquises pour représenter le royaume de Dieu sur cette terre, comme il est dit, pour détruire les œuvres du diable. Merci Père pour ton accompagnement, pour ton Saint-Esprit qui est avec nous. Que ton nom soit béni. Amen. Amen.